En fait, on a voulu imiter les conditions du musical du début du XXe siècle et le stress et les machines qui ne marchent pas et tout ça. Voilà. Alors, quand on va chercher dans les chansons populaires en Angleterre d'il y a un siècle, donc de 1900 à 1920, on trouve qu'il y a des milliers de chansons qui ont survécu. Pour une raison que je ne connais pas, à partir de 1880, la Bibliothèque nationale à Londres a décidé de stocker, avec tous ses livres, les partitions des chansons de musical, le top 50 de l'époque. Ce qui m'arrange parce qu'il y en a des milliers pour aller regarder et on se rend vite compte que l'Irlande et les Irlandais sont très présents dans ces chansons. Alors, y a des gens qui en ont parlé en passant et on a suggéré que la popularité du sujet est grâce à la diaspora irlandaise en Angleterre, les immigrés irlandais en Angleterre, qui faisait partie donc du public populaire du music hall, le music hall étant la forme principale de divertissement. Bonjour, bienvenue. De divertissement musical à cette époque. Rappelez-vous qu'il y a un siècle, le gramophone est réservé aux, pas tout à fait aux riches, mais aux privilégiés. Pour le prix d'un gramophone, on peut aller 200 fois au music hall en 1916. Alors c'est pour donner une idée, l'essentiel du divertissement n'est pas le gramophone qui a été inventé mais qui ne s'est pas généralisé. Et bien sûr, la radio, c'est pour longtemps dans l'avenir. Dans les archives du British Library, qui sont très loin d'être exhaustives, il y a plusieurs centaines de chansons qui évoquent l'Irlande ou l'Irlandais, et presque toutes sont aujourd'hui oubliées. Nous verrons un peu plus tard deux ou trois exceptions à cette règle. Moi, j'ai travaillé plus particulièrement sur les chansons de la Première Guerre mondiale. Et dans cette période de 4 ans, j'ai une collection de 1200 chansons. Et 2 à 3% parlent de l'Irlande. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est quand même très, très, très présent. Alors, pour bien comprendre ces chansons, il faut s'attarder sur le sens de ce pays et de ce peuple dans l'imaginaire des publics du music hall. Donc des publics qui comptaient une minorité de quelques pourcents, parfois 2%, parfois 4% de personnes issues de l'immigration irlandaise, mais pas assez pour expliquer cette popularité. Pour une bonne raison, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, les chansons de music hall sont extrêmement consensuelles. Le chanteur débarque dans une salle de 1000 ou 1500 personnes, il faut qu'il fasse chanter l'ensemble de la salle. Si la moitié chante, ça s'appelle un navet. Et alors, le fait qu'il y ait 6% d'Irlandais, ça ne suffirait absolument pas pour en faire des tubes. Alors, on va commencer par regarder un petit peu cette immigration irlandaise en Angleterre. C'est la première immigration massive en Angleterre dans les temps modernes. Les immigrés irlandais, donc venus pour échapper à la pauvreté en construisant les canaux et plus tard les chemins de fer, ou pour travailler comme domestiques ou dans les usines de textile dans le Lancashire. Et ils avaient toujours été nombreux. Cette immigration a toujours été nombreuse. Mais elle a accéléré après la grande famine des années 1850. On dit qu'un tiers des Irlandais est mort et un autre tiers a quitté le pays. Alors ça a accéléré l'immigration en Angleterre. Ce sont des immigrés qui gardent souvent de forts liens avec le pays d'origine, qui n'est pas loin. Une partie de l'immigration est saisonnière. On va en Angleterre et on revient à temps pour faire des choses agricoles. Je ne comprends pas très bien tout ce monde-là. Et dans le pays d'adoption, les nouveaux venus, les Irlandais, subissent à la fois un racisme populaire, non sans lien avec le rôle de main-d'œuvre bon marché, et un racisme plus construit au sein des élites, en parallèle donc avec l'évolution des projets coloniaux de l'Angleterre. Donc il y a une série d'exemples de racisme de l'élite qu'on peut citer. Bien sûr, le racisme d'élite laisse davantage de traces écrites que le racisme populaire, alors on va commencer par là. Tout d'abord, il y a le grand romancier victorien et pasteur anglican Charles Kingsley, qui est auteur de The Water Babies, qui est un classique de la littérature enfantine que mes sœurs ont lu quand j'étais gamin. Lui, c'était un des premiers à réserver un accueil positif aux théories de Darwin. Par contre, pour lui, les Irlandais, c'était des chimpanzés blancs. Je cite. L'autre, endroit où on peut trouver ce racisme d'élite, c'est dans la revue Punch, connue pour ses caricatures. Donc, et on a ici un exemple d'un poème publié en 1848. Donc, je ne sais pas si tout le monde a le niveau d'anglais nécessaire, mais je ne vais pas tout traduire quand même. Donc là, c'est « 6 foot Paddy, are you no bigger, you whom cozening friars dish mentally than the poorest nigger grovelling before fetish. You to Sambo I compare, under superstition's rule, prostrate like an abject fool. » Donc, comparaison de l'Irlandais, Paddy, Patrick, au poorest nigger, au nègre le plus pauvre, parce que, bon, bien sûr, c'est un mot qui n'est plus acceptable aujourd'hui, mais qui, à l'époque, le racisme s'est revendiqué et gaiement chanté dans les music halls, par ailleurs, hein, on verra ça tout à l'heure. Alors, comparaison, donc, de deux autres rejetés, sous le règne de la superstition, on y reviendra, pas plus grand mentalement que le nègre le plus pauvre. C'est l'avantage de la clarté. Dans les années 60, on a des caricatures dans la même revue. En voilà un de donc 1866. Là, vous voyez donc derrière le monsieur derrière, c'est l'Irlandais. Et là, c'est mélangé avec un danger politique, donc le danger de the Fenian Pest. Donc la peste catholique, si vous voulez, et donc le danger de Fenianism, donc de l'indépendance, de l'autonomisme, de la lutte pour l'indépendance. Et on ne voit pas très très bien là, mais on voit quand même une tête de chimpanzé au fond, hein, qui va être plus claire dans certains des autres. Voilà celui-là. Donc encore une fois, c'est marqué Fenianism. Donc c'est à la fois racial et politique. C'est l'Irlandais inférieur, mais c'est aussi celui qui veut l'indépendance et qui est Fenian. Donc Fenian, c'est même jusqu'à aujourd'hui, c'est une insulte pour une insulte raciste contre les catholiques en Angleterre, en Irlande surtout. Quand on se fait traiter de Fenian, donc voilà, vous voyez un peu la teneur. Donc ça, c'est les années 1860. Je crois que j'en ai encore un. Oui, là, je n'ai pas réussi à trouver ni la date ni la publication, hein, mais il y a un petit poème en dessous qui dit on appelle les singes dans le zoo en leur donnant des noms irlandais, et les fils de l'Irlande sont en colère et nous insultent en disant qu'on est des snobs. Et ils ont bien raison, on ne devrait pas leur donner des noms irlandais aux singes parce que ce n'est pas juste envers les singes. Et des blagues racistes tout à fait classiques. J'en ai un dernier que je pense que peut-être vous connaissez, qui est, encore une fois, j'ai eu un peu, l'origine ici c'est américain, c'est Harper's Weekly, la revue, mais j'ai eu du mal à identifier la date et tout ça. Et là, donc on a tout clairement le racisme dit scientifique, où on définit le nègre, l'anglo teutonique, c'est moi, et puis l'Irish Iberian. Et le texte en l'eau, c'est les Iberians, donc les Irlandais, on pense qu'il s'agit d'une race africaine au début, qui ont traversé l'Espagne et se sont mélangés avec les sauvages du sud et de l'ouest de l'Irlande. Pas de toute l'Irlande, hein, c'est du sud et de l'ouest de l'Irlande, qui étaient des sauvages venus de l'âge de pierre. Je pense que c'est un racisme qui remonte loin et qui a une structure colonialiste assez classique, qui remonte jusqu'à Cromwell, qui, quand il donc va confirmer la colonisation de l'Angleterre et d'ailleurs de l'Irlande, et d'ailleurs prendre l'essentiel des terres et les redistribuer parmi ses soldats et ses officiers. L'argumentation donnée, ça va être parallèle à celui donné pour les Indiens d'Amérique, que ce sont des êtres inférieurs qui ne méritent pas d'avoir la terre parce que nous avons de meilleures technologies, une race supérieure et tout le tralala. Donc ça accompagne une politique coloniale. Alors, le racisme populaire, c'est pas forcément le même. Tout d'abord parce que l'expérience est différente. L'expérience populaire, nous allons voir, est de beaucoup de mélange avec les Irlandais qui habitent dans le même quartier. Mais aussi, laisse-moi de traces écrites, le racisme populaire. Heureusement, nous avons quelques témoignages, mais surtout venant d'un homme, je ne sais pas si vous connaissez Robert Roberts, qui a écrit deux livres très influents, The Classic Slum et A Ragged School Inc. Et en fait, il est devenu universitaire, mais enfant, il était né en 1902, je crois, enfant, il était fils d'épicier dans un quartier très pauvre. Et alors, il a une expérience de première main de tout ce que eux, ils étaient. Sa famille n'était pas était pauvre, mais n'avait jamais eu faim. Tandis que le quartier, en général, les gens, ils connaissaient la faim. Hein. Et c'est un super livre. Hein. Il décrit déjà comment les mères venaient. Les achats, elle les ramenait chez eux dans le tablier. Parce qu'acheter un sac, c'était trop cher. Vraiment, une pauvreté très, très lourde. Et lui, il nous donne quelques idées sur le racisme anti-irlandais. Et j'ai une petite citation ici. Protestants held a series of beliefs about the mix. Now, the mix, ce sont les Irlandais, donc c'est tout comme Patrick, qui est un prénom typique irlandais. Il y a Michael, et donc Mick, donc c'est encore les Irlandais, qui, pour l'essentiel, rendaient impossible... Oh, excuse-moi, je traduis ou je lis là, je ne sais pas. Je vais lire déjà. Which for the most part precluded any genuine friendship between them. People assured one another in the shop that nearly all Roman Catholics were dirty and ignorant, and even the cleaner ones could never be trusted. When a member of that faith new to the district came in to buy, customers in the shop would nod and mouth. It was widely held that they went in dread of the priesthood, who had beaten obedience into them in childhood and who now exploited their fear of death. Neighbours, Protestant neighbours, watched a priest passing along the pavement with a cold eye and left his good day unanswered. Donc les protestants ont convaincu que les catholiques c'est pour l'essentiel des gens sales, et même ceux qui sont sales, pas sales, il ne faut pas avoir confiance. Alors, bien sûr, une religion n'est pas une race, mais quand un préjugé contre les croyants d'une religion particulière, quand on leur prête des caractéristiques négatives qui viendraient de leur culture, qui ne peuvent pas changer, alors ça fait une belle jambe à l'opprimé que ce n'est pas basé sur une race, mais sur une religion. Parce que puisque quand ils considéraient que tous les catholiques étaient les mêmes et ils ne pouvaient pas changer, bon, le fait que ce soit religion et pas race, ça me semble un détail. D'ailleurs, justement, j'ai une citation là de Maurice Godrin qui a écrit beaucoup sur les Irlandais. Et lui, en parlant de ses préjugés, il dit « Il n'y a ni différence ni de couleur de peau, ni couleur, ni race. Les deux religions sont chrétiennes. Et pourtant, on y retrouve toute la panoplie du racisme ordinaire. » Donc ici, en fait, les pauvres Irlandais qui venaient en Angleterre chercher du travail, c'est les catholiques. Donc il y a une minorité protestante en Irlande, mais nettement plus riche. Alors l'essentiel des Irlandais qui viennent en Angleterre, surtout dans le Nord, ce sont des catholiques. Bien sûr, c'est une époque où le racisme en général est revendiqué assez gaiement, hein. Le sort, je vais évoquer brièvement le sort des Juifs et des Noirs à l'époque pour vous donner un peu de contexte. Roberts, le même auteur, raconte des pogroms anti-juifs à Salford, à côté de Manchester, où les maisons des Juifs furent brûlées sous l'œil bienveillant de la police locale pour obliger les Juifs de quitter le quartier. Et nous voyons quelques échos de cet antisémitisme populaire, justement dans le musical, parce qu'il y a des chansons antisémites, des tubes, des chansons à succès, comme en 1916, Sergeant Solomon Isaacstein, qui montre un soldat juif dans l'armée britannique qui profite d'une négoce usurière dans les tranchées, tous les stéréotypes classiques du juif. Et d'ailleurs, dans cette chanson particulière, vers la fin, il fait une bêtise et ça explose, et il a failli être tué. Et bon, tout ça, c'est comique, hein, on est censé rigoler, parce que c'est un juif qui a failli se faire tuer. Le racisme anti-noir, c'est un petit peu différent, dans la mesure que, au niveau populaire, si le peuple anglais a fréquenté des Irlandais et des Juifs dans les villes de Manchester ou à Londres, les Noirs, ils n'en ont pas vu. Alors ça fait un autre, beaucoup plus exotique, beaucoup plus lointain, et les représentations dans le musical et ailleurs sont beaucoup plus méchants. Même vraiment y a toute une série de chansons racistes du genre « Sortez ces nègres de ce bar », ça le mérite la clarté, mais aussi avec des descriptions racistes de la physique animale, entre guillemets, des Noirs. Ok, mais revenons aux Irlandais, et avant de partir aux chansons, je vais y arriver, je voudrais parler brièvement de la nature des chansons de musical. Donc, au début du XXe siècle, nous sommes en présence d'une véritable industrie de divertissement. Des grands théâtres de 1500 à 3000 places sont de plus en plus la norme, souvent gérés par des chaînes de théâtre telles que Moss et Stoll, des effets spéciaux somptueux, d'énormes réservoirs d'eau pour faire avec des... comment dire, en vert, pour qu'on puisse voir de la natation synchronisée. Une fois, il y avait une vraie course de chevaux sur scène, avec la scène qui tourne et les chevaux qui coursent. Donc vraiment des effets spéciaux somptueux et des numéros spectaculaires, ainsi que des extraits de la culture savante, opéra, ballet. Donc, le ballet, c'est un exemple particulièrement intéressant, parce que l'élite n'aimait pas le ballet à cette époque, parce que c'était trop... comment dire, il y avait envoyé trop le corps des femmes. Alors pendant 30 ans, le ballet a survécu en Angleterre à cause du musical. Au musical, on voit des extraits de Shakespeare ou des courtes pièces écrites par les grands dramaturges de l'époque qui étaient représentées au musical à condition de ne pas dépasser les 40 minutes, c'était la loi. Le prix d'entrée restait très modeste et le public comprenait beaucoup de jeunes personnes, beaucoup d'enfants. En fait, on sait quel était le public du musical, bizarrement, parce qu'il y a souvent des incendies et la liste des victimes est assez détaillée. C'est comme ça qu'on découvre. Alors ici, on a ça j'avais oublié de vous montrer. Ce sont donc les représentations des Noirs. Donc là, c'est des chansons de nègres, une collection de chansons de nègres, entre guillemets, au début du XXe siècle. Et à droite, nous avons... Donc en fait, c'est des cartes de cigarettes qu'on collectionne avec les cigarettes, des vedettes du musical. Et cette vedette-là, c'est May Henderson, qui est blanche, bien sûr, hein, qui est blanche déguisée en noir pour chanter. C'est tout un genre dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais j'ai écrit un article dans la revue française de civilisation britannique qui va sortir dans quelques mois sur le racisme anti-noir dans le musical. C'est ça ce que je voulais vous montrer. Ça, c'est The Alhambra. La photo est de moi, ça c'est l'Alhambra, donc c'est le musical de Bradford, ça marche encore aujourd'hui, mais pas comme musical, 1400 sièges, ouvert en 1914, donc c'est le genre de bâtiment, et le genre de public, là nous avons une des très rares photos des publics du musical, parce que les gens ne prenaient pas ça en photo. Vous pouvez peut-être pas compter de là, mais moi je compte un tiers de femmes dans le public pour vous donner une idée. Heureusement, elles ont des chapeaux différents, comme ça on peut les reconnaître. Aussi, je pense qu'on voit quand même pas mal de jeunes personnes. Je pense que c'est pas assez clair de faire une vraie analyse, mais ce sont des gamins. Hein, alors c'est intéressant ça. Alors, quel genre d'idée est véhiculé dans la chanson du musical? Bon, c'est le point essentiel, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est qu'il faut que ça soit consensuel, parce que tout le monde doit chanter avec. C'est pour ça que quand les chansons sont politiques, ils sont consensuels. Par exemple, il n'y a quasiment pas de chansons contre le droit des votes des femmes. Et pourtant, c'était le grand débat à cette époque. Par contre, il y a beaucoup de chansons contre les suffragettes extrémistes et ridicules, pour se moquer des suffragistes extrémistes. Donc ça, c'est très typique, c'est-à-dire qu'ils peuvent mobiliser toute la salle pour se moquer des suffragettes qui ont fait de l'action directe. Par contre, sur la question des droits de femmes, ce serait trop divisé, alors qu'il n'y a pas de chanson qui traite là-dessus. Pendant la guerre, c'est la même chose. Après les premiers 6 mois, il n'y a pas des chansons qui disent « Vive la guerre ». Et pendant l'ensemble de la guerre, il n'y a pas des chansons contre la guerre, qui disent « La guerre, il ne faut pas le faire ». On reste sur le consensuel des milliers de chansons espérant que la guerre finisse bientôt, un rêve de victoire, et surtout le mot qui se retrouve dans la moitié des chansons, « home », rentrer chez soi. Donc c'est le thème qui marche. Enfin, les chansons constituent un genre de texte tout à fait particulier. Ils sont produits par des paroliers et des chanteurs qui veulent donc que ça marche pour que le gérant des théâtres les invite à revenir l'année suivante ou dans 3 mois. Donc c'est très alimentaire. Il y en a beaucoup qui... On est toujours, comme on dit dans le show business, hein, on est toujours à deux navets de la mort. C'est-à-dire, même si on a 3 tubes de suite, il y en a 2 qui ne marchent pas, c'est fini. Alors c'est très très tendu. Deuxième chose, personne n'a la touche magique. C'est-à-dire qu'on produit le tube et puis on ne réussit pas à en avoir un deuxième. C'est toute la magie de la chanson populaire. Mais notons bien que les chansons populaires traitent de fantasmes, de rêves, de jeux, plutôt que de revendications d'analyse ou d'opinion. Et nous allons voir le parolier qui écrit une chanson pour se moquer des Irlandais idiots peut tout à fait, 5 ans plus tard, écrire une chanson super positive sur les Irlandais. C'est qu'est-ce qu'il va vendre cette année, hein. C'est assez commercial quand même. Alors, les chansons. Le premier type de chanson, il y a 3 types. Je ne sais pas s'il y en a 4, mais bon, il y en a 3. Le premier, le stéréotype de l'idiot. Donc, le stéréotype raciste de l'Irlandais. Stéréotype assez complexe quand même. L'Irlandais est censé être stupide et rationnel, mais également poétique, émotionnel, joueur, sentimental et bagarreur. En général, le racisme victorien et édouardien voyait les Irlandais comme des enfants. Une vision que nous avons vue accompagne utilement le projet colonial des Anglais en Irlande. C'est-à-dire qu'on prête à l'autre, aux cibles du racisme, à la fois des caractéristiques très négatives, genre stupidité, mais aussi on leur permet un espace pour être sentimental, poétique, un espace qui est interdit aux hommes normaux édouardiens de l'époque. Donc dans une période où le chanteur anglais ordinaire ne peut pas chanter de l'amour sentimental parce que les hommes ne montrent pas comme ça en public le sentiment, et ça c'est laissé à des narrateurs irlandais et noirs. Donc c'est un petit élément. Alors regardons donc ces idiots, les Irlandais, donc de grands ivrognes, des bagarreurs. Donc en 1889, j'ai une chanson, La jument de McCarthy, et ces deux Irlandais qui n'arrivent pas à empêcher la jument de s'enfuir à cause de, parce qu'ils ont bu trop de whisky. 1896, le match de football des Irlandais. C'est des Irlandais qui veulent organiser un match de foot qui ne réussissent pas parce que les hommes n'arrêtent pas de se bagarrer suffisamment longtemps pour organiser le match. 1902, la marche irlandaise montre les Irlandais comme bêtes et alcooliques. Ils organisent une course de Ballyslush à Cork, et le prix est une caisse de whisky pour celui qui arrive en marchant le plus vite. Mais bien sûr, avant que la course a fini, les juges ont bu le whisky en question. 1907, dans la lettre d'amour de Paddy, donc Paddy, l'Irlandais est si bête qu'il met sa lettre à la poste sans inscrire l'adresse dessus, et on nous explique « Oh sure, Paddy's the boy, there's none in the world can be better. But he's better at fighting than courting than writing. Se battre, de battre, se mettre. Donc il est plus fort pour se bagarrer et pour draguer que pour écrire. Il y en a toute une série, je passe rapidement. 1910, il y a le voyage des gens de Killarney à Paris, qui met en scène de simples Irlandais ruraux en visite dans la ville, symbole de la sophistication urbaine. Et 1914, donc juste avant la guerre, on a la détresse de Paddy, qui voit le même Paddy, donc le même Irlandais, paresseux, bagarreur, malhonnête, mais touchant. Et là, nous avons le texte. Oh, I'm tired of the streets and the long for Glengall, where easy is to work. Notez donc la prononciation easy, pour easy. But easy is to work if there's any at all. Oh, I don't really know why the channel I crossed. I'm away from the street, I'm cold and I'm lost. You see thousands of people and none that you know, and they're all for themselves wherever you go. You can never rise a fight for the peaceful scout. Vous remarquerez que mon accent irlandais a tendance à tourner écossais après quelques lignes. And you can't shoot a landlord for turning you out. Oh, I've borrowed £2 from an Englishman here, and off to Glengall I'll soon disappear. If there's one thing I like, it is plenty of rest. And for that sort of thing, well, Old Ireland's the best. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ce qui est difficile pour l'Irlandais en Angleterre, c'est qu'on ne peut pas provoquer une bagarre, parce que les Anglais sont trop paisibles. Alors, ils s'ennuient. Et on n'a pas le droit de tirer sur un propriétaire s'il vous met dehors. Donc c'est le stéréotype des Irlandais qui traitent mal, qui sont violents contre les propriétaires dans une situation coloniale où on pourrait considérer une réaction contre les propriétaires comme justifiée. Donc c'est une chanson de type colonialiste. Bien sûr aussi l'Irlandais, avant de retourner en Irlande pour se reposer, il emprunte de l'argent à un Anglais. Et il va disparaître, bien sûr, sans le payer. Donc, bon, on voit c'est toute une série de stéréotypes racistes. Et en même temps, c'est présenté comme touchant, sympa, enfantin. Donc, c'est un type particulier de vision raciste qui n'a pas comme centre le rejet méchant de l'autre, mais l'infantilisation. Donc on reste sur les stéréotypes pour l'instant. Ça continue pendant toute la Première Guerre. Nous avons en 1915 la chanson « L'avion de Paddy Moloney ». Alors Paddy Moloney, donc, tout le monde comprend tout de suite que c'est un Irlandais. Cet avion a été inventé par quelqu'un de Killarney. J'essaie de faire deux choses en même temps. C'est tellement bien trouvé qu'il est équipé de machines qui permettent de voir l'ennemi même quand il est hors de vue. Alors ça c'est la représentation de l'invention. Alors avec un peu de chance, je vais pouvoir vous jouer un petit morceau de cette chanson. Pas des Maloney's Aeroplane. Je ne vais pas vous le jouer en entier, donc pas des Maloney's Aeroplane. Je voulais que vous écoutiez un petit peu les chansons parce que il y a quelques éléments de la musique qui sont intéressants. Tout d'abord, musicalement, ce n'est pas sophistiqué, le music hall du début du siècle. Avant la radio et la généralisation du gramophone, les gens ordinaires ont entendu fondamentalement très peu de chansons. C'est-à-dire, une fois qu'on invente la radio, on peut écouter au cours d'une vie 1000 fois plus de chansons qu'avant. Donc c'est vraiment, il y a une chanson de music hall là-dessus. Quand mon oncle chante la seule chanson qu'il connaît. Alors, très loin de un peu l'idéalisation romantique de l'air quand les gens chantaient chez eux autour du piano, ce qui est vrai, hein, c'est vrai. Je suppose qu'aussi que ça a dû être un répertoire assez répétitif et un peu ennuyeux. Et c'est vrai que le music hall ne peut pas être sophistiqué musicalement. D'abord parce que le chanteur, il passe toutes les semaines dans une ville différente. Le lundi matin, il rencontre l'orchestre local du music hall qui doit apprendre sa chanson. Alors, c'est pas du tout The Rolling Stones qui peut faire la version live qui est différente que la version remix et tout ça. On est loin de là. Et c'est vrai que parce que je dois beaucoup écouter, quand je passe un mois avec mon MP3 en écoutant le music hall, j'ai bien besoin de mois de punk rock après pour me remettre. Quoi. C'est pas musicalement forcément très excitant. Alors, si j'appuie sur ça, est-ce qu'il va me donner à nouveau le. Ouais. Ok, Paris Distress. Mon diaporama, à partir de celui-ci, visionné, il va le mettre au début, c'est ça. Bon, d'accord. Une des chansons les plus populaires de la Première Guerre mondiale, It's a Long Way to Tipperary, qui est très, très connue, a pourtant des strophes. Avec des stéréotypes de l'irlandais. Justement, le strophe, c'est Paddy wrote a letter to his Irish Mollyo saying, should you not receive it? Alors, avec un peu de chance. Paddy wrote a letter to his Irish Mollyo saying, should you not receive this right and let me know if I make mistakes in spelling. Molly dear, said he, remember, it's the pen that's bad, don't lay the blame on me. Avant le refrain. Donc, bon, bien sûr, des blagues donc, classiques sur la bêtise touchante des Irlandais. Une autre chanson à succès de 1915. Est-ce qu'on peut identifier lesquelles sont à succès de deux façons différentes? Tout d'abord, à la fin de chaque année, il y a les recueils. Publier des réussites de l'année, ce qui heureusement parce qu'il y a des centaines de chansons et puis il y en a 30 dans le recueil, alors ça nous permet de distinguer. Et aussi il y a quelqu'un qui connaît très bien le music hall qui a fait une liste des chansons significatives par année et il a choisi une quarantaine chaque année. Alors ça c'est très utile parce que sinon tout est au même niveau, des milliers de chansons, on ne sait rien. Alors, l'autre de 1915, il se moque gentiment d'un soldat irlandais qui a des idées un peu étranges. Ça s'appelle Michael Cassidy, cette chanson. Who was it went to Kitchener and said, my lord, I hear we are short of ammunition. So I struck a big idea. On every shell we fire at them, let's put a lump of chain. Then when we've killed the dirty dogs, we'll pull it back again. Who was it when he found his boots were leaking the other day, went out to get a new pair from a German straight away? Who was it came back late and said, I must apologize, I had to kill 19 of them before I got my size. Ok, alors maintenant on est pendant la guerre et à la fois l'Irlandais a des idées idiotes. Et en même temps, il a un courage un peu né de l'inconscience. Mais c'est une chanson qui cherche à intégrer l'Irlandais dans la communauté nationale en même temps que se moquer de lui. Et on note qu'il y a un certain nombre de chansons où on voit des stéréotypes des Irlandais qui ne sont pas forcément négatifs. Ce sont des gens qui savent faire la fête. Ce genre de chanson. Donc, en 1916, il y a At Finnegan's Ball et on ne trouve rien de négatif. Sauf dans la mesure où ça peut être énervant de faire partie d'un groupe cible du racisme et donc être obligé à suivre des stéréotypes positifs. Tu vois, comme quelqu'un qui est noir et les gens pensent qu'il doit forcément avoir l'esprit musical, ça doit être énervant à la longue, même si ce n'est pas négatif d'avoir l'esprit musical. J'en ai un autre de 1917, et c'est Paddy McGuinty's Goats. Et on va encore le... Si je m'organise bien, on va encore l'écouter. Paddy McGuinty's Goats, il est parti où, Paddy McGuinty's Goats? Donc le chèvre de Paddy McGuinty. Que dans cette chanson, l'Irlandais achète un chèvre. Un chèvre ?
Une
chèvre. Oui, voilà, achète une chèvre pour avoir du lait, mais se rend compte, on rentre à la maison, qu'il s'agit d'un bout, bien sûr. D'ailleurs, c'est une histoire raciste très classique en Angleterre, la question de la chèvre. Par contre, étant chanceux, comme le sont, on le sait tous les Irlandais, ils s'en sortent bien à la fin, car son bouc réussit à couler un sous-marin allemand. Oui, ce n'est pas d'une évidence à première vue. Donc, j'ai fini avec les stéréotypes de l'idiot enfantin, etc. Il n'y a que deux chansons que je veux citer d'abord. Un s'appelle « Le bébé anglais yiddisher » où on trouve... Non, je l'ai pas là-haut. Où on trouve... Et un autre qui s'appelle « Le yiddisher irlandais ». Et là, on parle des juifs irlandais. Et alors, il y a un siècle, c'est déjà comique. L'idée d'un juif irlandais, c'est déjà comique pour le public à l'époque. Parce que déjà, les Irlandais, c'est ridicule, les juifs aussi. Alors, les deux ensemble, ça doit être doublement ridicule. Parce que c'est ça l'ambiance raciste de l'époque, vous voyez. Et alors là, donc, dans la dernière chanson, les parents choisissent pour leur enfant le nom Levi, Connie, Jacob, Bonnie, Michael, Isaacstein. Donc, mettons en alterné des prénoms absolument juifs et des prénoms absolument irlandais. Mais quand on regarde les chansons avec ces stéréotypes dedans, on se rend compte que ce n'est pas du tout la présence majoritaire. La présence des Irlandais et de l'Irlande dans les chansons est représentée beaucoup plus par les autres catégories. Et le premier étant la nostalgie rurale. Parce que l'Irlande sert de focalisation pour la nostalgie ou le fantasme, plutôt, d'une vie rurale supposée plus simple et plus heureuse. Les membres du public d'origine irlandaise accueillaient avec enthousiasme ces chansons qui louaient leur patrie. Mais surtout, les Anglais aimaient les chansons sur la bonne vieille Irlande, paradis perdu. Le retour imaginé à une vie rurale n'est pas réservé aux classes moyennes du XXIe siècle, mais faisait partie d'un fantasme ouvrier très courant au XIXe siècle en Angleterre, à tel point que le mouvement chartiste qui se battait, donc mouvement de masse qui se battait pour le droit de vote, est confronté au mépris des élites concernant leur revendication du droit de vote. Le mouvement chartiste avait mis beaucoup d'énergie dans son land plan, qui visait à acheter des petites fermes pour des familles ouvrières, le réinstaller à la campagne et le permettre ainsi d'échapper à l'exploitation des industriels. C'est une énorme campagne réussi au niveau de la, du symbolique politique, mais au niveau du, des résultats pratiques, un échec, parce qu'en réalité, les ouvriers sortis depuis deux générations de la terre, c'était des mauvais agriculteurs. Le lecteur français, bon, ici, le public français, ne doit pas oublier que l'urbanisation massive est intervenue très tôt en Angleterre. À la fin du 19e siècle, la paysannerie, ça n'existe plus. C'est vrai que, pour mon expérience personnelle, je n'ai jamais rencontré un Anglais qui disait « mes grands-parents étaient paysans ». Tandis qu'en France, ils sont un peu partout, quoi. Voilà. Alors, j'ai quelques exemples ici, donc, de cette idéalisation. Il y en a des centaines, mais j'en ai quelques-uns ici. Non, je ne sais pas pourquoi je dois savoir. Donc, 1910, « Come back to Erin ». 1912, « Ireland never seemed so far away ». Et au cas où vous n'avez pas compris, c'est expliqué entre parenthèses. « An Irish ballad that makes you long for dear old Ireland ». 1913, « I'm coming back to old Kilkenny ». 1914, « There's a cottage in Ballymahon ». 1915, « The green vales of Antrim ». Ireland, the land of the shamrock. « I want to come home to Killarney ». Minnesota says, a little town in Ireland, I'll be back in old Ireland someday. My little Irish cottage. Minnesota said, take me back to old Killarney, come back to Ireland and me. My little cottage home in sweet Killarney. L'année suivante, when they made it summertime in Ballymooney, that tumble-down shack in Athlone. In Minnesota 19, my home in Connemara, a little bit of heaven. For Killarney and you. Alors, les chansons où la date n'est pas marquée, c'est que je n'ai pas trouvé la date. Ce n'est pas toujours si facile de trouver la date. En fait, donc ils apparaissent dans la collection du British Library et on a la date où la bibliothèque les a achetées, mais parfois c'est sans date parce que les maisons d'édition ne faisaient pas attention. Donc, on a tout ça. Vous voyez que qu'est-ce qu'il faut ? La présence d'un nom de village ou de petite ville, Ballymooney, Killarney, Athlone, Antrim, ou une région comme Antrim, les symboles nationaux, Erin, non, il n'y a pas Erin là, le shamrock, la trèfle donc, le mot home, chez soi, hein, et cottage, bien sûr, la chaumière, hein, chaumière, hein. Donc il y a tout ce qu'il faut, ça, c'est pas du tout tout ce qu'il y a dans cette période, c'est ce que j'ai trouvé sans essayer d'être exhaustive.
Je peux poser une question. Pourquoi Killarney revient si souvent ? Ça représente quelque chose dans l'imaginaire du monde ?
Je crois que c'est que... Je crois qu'en fait, c'est plus commercial. C'est-à-dire que... Oh, non, peut-être, je ne sais pas. Mais je crois que c'est plus commercial. Je crois qu'il y a eu une grande chanson Killarney qui a bien marché. Oui. Et alors les autres, ils disent, oh, mais Killarney, ça a marché. Parce que je vais expliquer bon, brièvement tout à l'heure, c'est pas forcément des Irlandais qui les écrivent ni qui les chantent, non. C'est Fred Godfrey, qui est un grand parolier gallois, il écrit des chansons irlandaises, des chansons écossaises, c'est tout ce qui vend cette année-ci. Hein. Et alors, Harry Lord, qui est une grande vedette du musical écossais stéréotypé sur scène, il a commencé sa carrière en tant que chanteur irlandais. Puis il a trouvé que ça marchait mieux d'être écossais. Alors, there's no business like show business. Alors quelques paroles vous montrent le ton. Killarney, Killarney, l'endroit que j'adore, ces lacs aussi bleus que le ciel au-dessus, où nous avons raconté la douce histoire de l'amour et nous avons juré fidélité. Ce soir, je chante pour Killarney et pour toi. Ici un exemple donc de la partition. Les partitions, ça se vendait parfois par millions. Donc il y a les deux axes de l'industrie du divertissement, c'est le spectacle live. Et puis la partition qui vend très bien parce que ça pouvait être étonnamment ça pouvait être cher, oui. C'est pas les balades de rue qu'on vend. Non, c'est bon.
C'est pas une feuille simple. Ça.
Bah, c'est-à-dire que c'est vendu à, je pense que c'est vendu à, c'est moins cher d'aller au musical que d'acheter une seule chanson. Quand même. Donc c'est pas que c'est très très cher, mais c'est quand même, c'est pas aussi bon marché qu'on pouvait penser. La question des droits d'auteur est très complexe à cette époque. En fait, ça change tous les deux ou trois ans. Il y a 4 millions de pianos en Grande-Bretagne en 1914. C'est l'autre élément à comprendre pour les partitions. C'est-à-dire que c'est très courant, y compris dans la classe ouvrière, le piano. 4 millions, je n'ai pas la population en tête, je pense que ça doit être 25 millions. Ça va, hein, comme beaucoup plus que plus tard. D'ailleurs, la plupart fabriqués en Allemagne. Alors, il y a beaucoup qui ont enlevé le nom du piano pendant la guerre. Et la chanson lui-même, donc « Dear Old Colony ». Et celui-ci, on va écouter avec les chansons. Donc, vous pouvez même chanter si vous voulez. Le refrain. L'attrait de ces chansons pour le public anglais tient à la fois au portrait d'un paradis perdu où la vie était simple et aussi au plaisir de regarder peut-être un peu envieux le narrateur en irlandais qui rêve de ses origines rurales. Alors il y a une double mise en perspective du point de vue du public anglais. Parce que le public anglais à l'époque, c'est la période de la revival. De la musique folklorique anglaise, mais un revival qui est réservé aux classes moyennes. Cecil Sharp, le grand père des collecteurs de la musique folk anglaise, fonde dans cette période, 1905 ou 1904, le English Folk and Dance Society, et il fait le tour du pays à faire des conférences sur la musique folk pour essayer d'intéresser les Anglais à la musique authentique. Que lui, il oppose au music hall commercial. Et il a tellement peu de succès qu'au début de la guerre, il va chercher la vraie musique anglaise authentique. Et où est-ce que ça se trouve, dit-il? Au Canada. Dans les montagnes du Canada, où, dit-il, le vrai esprit de la vraie musique authentique s'est caché. Et puis, de mon point de vue personnel, bon débarras pour Cecil Sharp qui était tellement loin du peuple anglais qu'il devait aller au Canada pour chercher leur esprit. Bon. Alors, si la terre d'Irlande est tellement beau, les paysages, la vie simple. Il y a aussi quelqu'un qui y habite, et c'est la fille irlandaise qui est le paradis irlandais, est reflété dans la pureté, la beauté et la patience des filles qui attendent les amoureux là-bas. Et ici, nous avons une liste, je crois. Oh, une liste de chansons sur l'amoureuse qui m'attendent en Irlande. A plain little Irish girl, my Irish Molly O, my Irish Rosie. Ils s'attendent pas, elles n'attendent pas toujours en Irlande. Ils sont peut-être parfois sur place en Angleterre, mais en général, elles attendent là-bas. My dream maid of Erin's Isle, I'll take you home again, Kathleen. Kathleen Mavourneen. Alors, Mavourneen, c'est chérie, je crois. Dans quel nom d'ailleurs. De temps en temps, il y a quand même un garçon, Terry, my blue-eyed Irish boy, my Irish sweetheart, sweet Mary O'Neill, my Irish Maggie, my Rose of Erin's Arden, Biddy, my Irish Witty. Allez, c'est vrai, je n'ai pas la moindre idée, mais c'était une chanson à succès. Alors, je n'ai pas trouvé la chanson, j'ai trouvé que le titre pour l'instant, mais c'est intéressant parce que ça pourrait être une parodie. Parce que tous les types de chansons musicales ont également le parodie où on se moque. Alors ça se trouve, c'est une parodie. Alors voilà, on a tout ça, des Irlandais qui attendent là-bas. Et mon préféré, Ireland must be heaven, for my mother came from there. Isn't that sweet? Yeah. L'Irlande, ça doit être le paradis, parce que c'est de là où venait ma maman. Il est évident qu'on n'a pas une représentation de la réalité de la diaspora. En fait, à certaines années, à la fin du 19e siècle, il y a davantage d'immigrés femmes de l'Irlande en Angleterre que d'immigrés hommes. Parce que la demande pour des domestiques est absolument énorme. Et les
États-Unis, c'est le cas. Aux États-Unis, il y a plus de femmes que d'hommes dans les Irlandais.
Ah non, je ne savais pas. Je ne savais que pour l'Angleterre. Oui. Et elles avaient très bonne réputation pour être des domestiques. Et voilà toute une bande de domestiques irlandaises. D'ailleurs, il y a une chanson de musical à l'époque où le narrateur est quelqu'un qui a un certain nombre de domestiques et qui dit « On a essayé de... une fois, on a recruté que des Irlandaises, une autre fois que des Écossaises. » Bon, c'est sans aucun doute, c'est une chanson comique. Hein, mais comme quoi, c'était une présence. Mais là, et ce n'est pas la dernière... Ce n'est pas la dernière époque où la voix principale de la chanson populaire est une voix masculine. Il y a une domination au sein de la musique populaire. Ici, donc, un texte ce genre de chanson, 1910. « Off in the gloaming, where the lights are low, comes a picture in fancy of one girl I know, a maiden so sweet, with the charms of the rose, though of ways of the world, 'tis but little she knows. In all Erin's land, there is none fairer than she, the dearest of all in this wide world to me. With the evening shades falling, my thoughts start to roam, and I think of that old-fashioned girl back home. She's my dream maid of Erin, this Irish maid fair. She is ever in dreams of the land way back there, and the star that is guiding me on is a smile. Just the smile of my dream maid of dear Erin's Isle. Alors donc là, on voit très clairement que l'avantage des amoureuses qui nous attendent en Irlande, c'est que ce sont des filles qui ne connaissent pas bien the ways of the world, hein, qui ne sont pas sophistiquées, mais qui sont très simples. Et voilà. Et old fashioned, donc c'est une idéalisation de la fille simple comme c'était chez nous. Dernier exemple, donc Mary from Tipperary. Mary was the sweetest little Colleen. Deep eyes of grey had she. The neatest, trimmest waist and a skirt to her pretty knee. And gallant Pat, he loved her well and loved the praise of her to tell, though in a rain of shot and shell, for a long, long way away was he. Donc ici, on est entré dans la guerre et la chanson a été mise au goût du jour en rajoutant donc l'amoureux Pat, qui est « In a rain of shot and shell », donc qui est parmi les obus, les obus et les balles des tranchées. Le met à jour. Il faut dire que parfois les paroliers, ils en écrivaient 4 ou 5 dans une journée. Hein. Ils essayaient de les vendre. Alors, ça, c'est la catégorie la plus importante, l'idéalisation donc, de l'Irlande et de l'amoureuse irlandais. Il y a une autre vision de l'Irlande à l'époque qui n'est pas reflétée dans les chansons de music hall, et c'est la représentation de l'Irlandais comme résistant. C'est le moment de la grande controverse sur le home rule, donc l'autonomie de l'Irlande, et le débat entre ceux qui veulent une certaine autonomie pour l'Irlande et les autres, déchire les partis politiques principaux en Angleterre, surtout le Liberal Party. Et il y a un certain nombre de chansons qui, pour défendre ou pour dénoncer le home rule. En fait, on est juste au bord du home rule quand éclate la Première Guerre mondiale. Enfin, les deux chambres du Parlement ont voté un Parlement autonome pour l'Irlande, pas indépendant, hein. Un Parlement autonome, mais en fait c'est bloqué par la guerre. Et puis il y a l'insurrection nationaliste de 1916 à Dublin qui va être rapidement écrasée par l'armée britannique et qui ne va pas enflammer le peuple entier, par contre va devenir le symbole fondateur de la République d'Irlande, parce que l'exécution immédiate et sans procès des dirigeants de l'insurrection est très très mal vécue en Irlande, et aujourd'hui encore, il y a les statues de ces gens un peu partout à Dublin. Donc, il y a une image parmi les classes populaires en Angleterre, comme les Irlandais, comme des gens qui savent se battre, mais ça, par contre, ça ne se reflète pas dans les chansons. Il y a deux autres types de chansons qu'on voit. Le premier, c'est une mise en scène d'une complicité entre Irlandais de la diaspora. Et ici, nous avons quatre exemples. Be sure he's Irish. If you're Irish, you'll remember. As long as you're Irish, you'll do. Donc, tant que vous êtes Irlandais, vous ferez l'affaire. If you're Irish, come into the parlour. Si vous êtes Irlandais, venez entrer dans le salon. The parlour étant la pièce de la maison réservée aux invités honorés. Donc ici, en fait, on a une mise en scène d'une complicité entre Irlandais et la diaspora, mais ce sont des chansons qui sont extrêmement populaires chez les Anglais aussi. Alors, je pense qu'il y a le fantasme de la communauté irlandaise plus soudée, plus solidaire que la nôtre. Donc c'est encore une image de ce type. Il y a aussi des chansons de la diaspora plus précises. 1889, la lamentation de l'exilé. Beneath a far Australian sky, an Irish exile lay. The sand from out his glass of life was ebbing fast away. Lay me on the hillside with my face towards the west, towards that sacred island, the land that I love best. Let a bunch of shamrocks green be planted o'er my grave. My dying prayer is, may God bless the island of the brave. Donc, une mise en scène donc, de l'exilé qui meurt loin de l'Irlande et qui regrette qu'il n'a pas pu revenir chez lui. Plus courant que la mise en scène de la complicité, c'est la mise en scène de la fierté irlandaise. Je vais vous donner quelques exemples. Toute une série quand même. Pas mal de chansons de mise en scène de la fierté irlandaise. It takes an Irish heart to sing an Irish song. We're Irish and proud of it too. Une chanson à succès, un grand tube. Don't forget you've got an Irish brogue. Donc, n'oubliez pas que vous avez un accent irlandais. Ireland must be heaven for my mother comes from there. When Irish eyes are smiling. As Irish as ever, donc aussi irlandais que jamais, 1917, donc après l'insurrection nationaliste et son écrasement, nous sommes aussi irlandais que jamais, donc ce n'est pas directement une mise en cause politique. Cela dit, ça ne peut pas éviter ces significations. A real old Irish wedding. Where did you get the name of Hennessy? You must change your name for O'Reilly. There's a little bit of Irish everywhere, and there's something in the Irish after all. Alors, il y a une petite variété là, le tout dernier, there's something in the Irish after all, est plutôt défensif. Les Irlandais, quand même, ça vaut quelque chose. D'accord. Mais il y en a, we're Irish and proud of it too. Alors, we're Irish and proud of it too donne lieu à une revue tout entière sous le même titre, suivi en 1917 par une autre revue aussi irlandaise que jamais. Et pour cette dernière, la publicité soulignait que l'ensemble des artistes étaient irlandais. Donc, la réussite de ces revues, donc de ces spectacles entiers autour de la mise en scène de la fierté irlandaise, serait à creuser un an après cette insurrection nationaliste. Le plus connu de ces chansons, c'est bien sûr When Irish Eyes Are Smiling, et c'est un de très peu de chansons qui est encore connu aujourd'hui. Tous les hommes les connaissent. Alors, c'est qui, il y a un siècle, ça fait un siècle, c'est assez impressionnant quelque part. Alors, il y a ça, et encore, je trouve qu'il faut encore explorer cette mise en scène donc de la fierté irlandaise. Ça continue donc après 1916, mais les chansons qui idéalisent l'Irlande ont tendance à baisser après 1916, parce que quand même cette insurrection nationaliste, je pense que ça pose plus de problèmes pour idéaliser l'Irlande. C'est pas grave, les paroliers, ils enlèvent Irlande et ils rajoutent Dixie. Et alors on a une vague de chansons sur comment c'est merveilleux la vie rurale au sud des États-Unis, Dixie. Et c'est les mêmes chansons, hein. c'est simplement on les change. À peu de frais, on les remplace. Donc, vous avez bien compris, on n'est pas dans la présence d'une production issue d'une communauté irlandaise. Et il n'y a pas forcément non plus la revendication de l'authenticité. Dans les années 60, il y a une nouvelle vague de musique irlandaise qui continue jusqu'à aujourd'hui avec Lord of the Dance et vous savez, ces grands spectacles de danse irlandaise qui passent même à Paris, et tout le folk irlandais, le revival, the Dubliners, the Chieftains et tout ça, et c'était revendiqué comme authentique, ce qui est un concept assez compliqué. À cette époque, je pense que c'était moins fort, cette idée d'authenticité, ou le désir d'authenticité était moins fort, mais ça existe. Justement, la chanson It Takes an Irish Heart to Sing an Irish Song se plaint, dans le texte, il se plaint que maintenant tout le monde chante des chansons irlandaises et ça devrait quand même être seulement les Irlandais. Et puis, je vous ai dit que dans la revue aussi irlandaise que jamais, un des arguments de vente, c'est « nous avons que des Irlandais sur scène ». Donc il y a quand même une revendication d'authenticité. Bien sûr, quand la guerre arrive, il y a une certaine tendance de la part de l'idéologie dominante de vouloir utiliser la fierté irlandaise pour les besoins de l'Empire britannique. Et ça donne lieu à quelques chansons, dont cela... où les Irlandais sont merveilleuses parce qu'ils se battent, les Irlandais sont merveilleux, parce qu'ils se battent pour l'Angleterre ou pour l'Empire britannique. Donc on a Michael O'Leary, VC, donc VC c'est Victoria Cross, donc le plus grand médaille, la médaille pour courage le plus valable qu'on peut avoir. When an Irishman goes fighting, he's a credit to old Ireland now, donc la vieille Irlande peut en être fière maintenant. Les Irlandais se mettent toujours en avant dans la guerre. The Irish are always in front. He died like a true Irish soldier. Et enfin, I'll plant the shamrock somewhere in France. Je planterai la trèfle quelque part en France. Donc, le premier, They All Sang God Save the King, c'est une chanson où on met en scène un Anglais, un Gallois, un Écossais et un homme. Et qu'est-ce qui manque là? Un Irlandais. Et chacun chante une de ses chansons nationales pour le pays de Galles, pour l'Écosse, pour l'Irlande. Et puis à la fin, ils se mettent tous ensemble pour chanter Dieu sauve la reine. Donc ça, c'est au tout début de la guerre. Donc c'est une chanson de propagande pour souligner l'unité des quatre nations pour la guerre. Et je pense que, bon, là c'est une autre question, la propagande de guerre dans le musical, mais moi je le sens comme très puissant. Parce que c'est une chose que l'évêque ou le général ou le politicien dit qu'il faut aller se battre, mais quand la vedette du musical, qui est un héros populaire, hein, qui est un héros populaire, qui vient de familles très pauvres en général, c'est les nôtres qui nous disent qu'il faut aller se battre, je pense que ça a un poids de propagande tout à fait important. Donc ces chansons qui essaient d'utiliser donc, la fierté irlandaise pour la campagne pour la guerre, j'ai écrit beaucoup sur la Première Guerre mondiale et j'essaie d'éviter l'expression l'effort de guerre. Parce que ça a l'air tellement positif, l'effort de guerre, alors j'essaie de trouver d'autres expressions pour éviter la campagne pour la guerre. Je dis. Donc voilà un exemple, donc, le texte. I'll plant the shamrock somewhere in France that I know well. Green it will grow there, sweetest of plants, there where the Irish fought and fell. And while the angels tenderly weep over the emblem of my sire land, brave lands of Erin will peacefully sleep under the shamrock of Ireland. On dirait Tolkien, quoi, le Seigneur des Anneaux et les chansons qu'il a inventées pour la tradition noble de la race. J'ai quasiment fini. Il n'y a presque pas, mais un ou deux chansons antiracistes. Et voilà un des exemples. My father was born in Killarney, don't run down the Irish. Alors, mon père est né à Killarney encore. Hein. N'insultez pas les Irlandais. Écrit par le même Gallois, Fred Godfrey, qui a écrit d'autres chansons pour se moquer des Irlandais imbéciles, hein, pas de problème, si ça va. Et là, en fait, ça, c'est une partition qui a été publiée, donc vous le voyez peut-être, en Australie. C'est presque le même marché à l'époque. Les vedettes du musical, ils font le tour de l'Australie, puis le tour de l'Afrique du Sud, puis du Canada. Le marché américain est un peu séparé. Voilà. Donc pour conclure, on a vu un peu les différentes forces de la rhétorique de l'Irlande et des Irlandais dans le genre du musical. Et il semble pour moi assez loin de l'intervention plus tardive dans la musique populaire britannique qui sera le renouveau du folk irlandais à partir des années 60. Il est frappant que les stéréotypes sont le plus souvent pas négatifs, mais plus construits autour d'une idéalisation de fantasmes de vie simple. Et je pense que ce sont des chansons qui donnent un éclat si intéressant sur les attitudes populaires de l'époque. Et il me réconforte un peu dans ma thèse principale, qui est que les chansons populaires ne doivent pas être considérées comme utiles pour illustrer l'histoire de l'Angleterre, mais ils ne sont pas des illustrations, ils font partie de l'histoire. La chanson populaire, c'est une pratique de masse qui nous apprend beaucoup sur qui étaient ces gens et qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire le samedi soir quand, pour une fois, ils avaient un peu de temps à eux.
Merci. Merci John, c'est pas souvent qu'on a des intervenants qui chantent. D'autres, on va dire, c'est une pratique, d'autres, c'est une pratique. Et donc pour les questions, elles peuvent être...